Les séminaires du Collège de France.
Bonjour, c'est moi aujourd'hui qui donne le séminaire de cette série sur la philosophie de la pratique des mathématiques. J'ai choisi un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la nature des preuves motivées. Je crois que tout le monde saura de ce dont je parle. Souvent on voit une preuve d'un théorème et on voit que toutes les étapes marchent, la preuve est correcte, mais à la fin on n'est pas satisfait du tout parce que les idées arrivent de nulle part et on dit souvent que les idées ne sont pas bien motivées. C'est vrai qu'elles marchent, mais on a le sentiment de ne pas vraiment comprendre la preuve si on ne voit pas d'où viennent les idées. Alors c'est ça dont je veux parler, mais bien sûr, parce que c'est un phénomène bien connu, je ne suis pas le premier à en parler. Et il y a en particulier il y a un article il y a un certain temps. Il y a un article de George Poya, quelqu'un que j'aime bien, qui est très bien connu pour son livre How to Solve It. Il est un des rares mathématiciens qui a beaucoup réfléchi sur les processus de découvrir les preuves, et pas sur que sur les preuves elles-mêmes. Et il a écrit cet article avec ou sans motivation. Et cet article consiste de deux parties. Il y a des remarques générales, mais la plupart de l'article est une discussion d'un exemple d'une preuve. Et il la présente de deux façons. Une façon pas du tout motivée et une façon beaucoup plus motivée. Je vais faire la même chose pour d'autres preuves, mais sans exemple, je vais vous montrer que la version non motivée, pas motivée du tout, parce que c'est un exemple, un bel exemple, un exemple assez extrême du phénomène. Alors c'est une inégalité de Carleman. On a une suite de nombres réels positifs dont peut-être on peut ajouter la condition que la somme est finie, mais ça ne change rien parce que si la somme est infinie, on a l'inégalité. Alors je vous ai donné quelques secondes pour regardez l'inégalité. Et maintenant, voyons une preuve. J'ai mis les étapes qui manquent de motivation en rouge. Alors, pour commencer, une étape vraiment mystérieuse. On définit une suite Cn ainsi. Cn égale n plus 1 puissance n divisé par n puissance n moins 1, et une suite Bn, où Bn égale An multiplié par Cn, et on observe que le produit de C1 jusqu'à Cn égale n plus 1 puissance n. Et ça c'est la propriété, il est clair que si on veut cette propriété là on peut définir des CN pour la satisfaire, mais c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, une fois qu'on a fait cette définition, la preuve devient vraiment assez facile grâce à quelques miracles. Alors voilà la preuve. Ça marche? Merci. Ah oui. Et donc, on commence par réécrire cette expression-là en termes des BN. Je vous rappelle que BN égale, alors, BI égale AI fois CI. Et donc, le produit des BI égale le produit des AI multiplié par le produit des CI. Et le produit des CI égale N plus 1 puissance N. Et donc, quand on prend le puissance 1 sur N, on arrive à un facteur N plus 1 en plus en haut. Et donc, on met un N plus 1 en bas pour compenser. Et donc, on a cette égalité-là. Maintenant, on fait quelque chose qui n'est pas très mystérieux du tout. On utilise l'inégalité arithmético-géométrique pour remplacer la moyenne géométrique par la moyenne arithmétique, la somme des BI divisée par N. Et maintenant, on a une double somme, une somme sur N d'une somme sur des BI. Et souvent, quand on a une double somme, c'est une bonne idée de changer l'ordre de sommation. Donc, c'est ce qu'on fait. On arrive à cette expression-là. Chaque BK est lié avec 1 sur N, N plus 1, si et seulement si N est au moins K. Et ça, c'est une somme qu'on sait évaluer parce que on peut la réécrire comme ça. On a une somme télescopique, c'est un exemple très bien connu. Et quand on a une somme télescopique, il y a beaucoup de constellations par définition, et on arrive à cette expression-là qui est assez simple. Et maintenant, c'est le moment de retourner aux AI. On a BK. BK égale AK fois CK. CK était K plus 1 puissance K divisé par K puissance K moins 1. Et on a le K là. Alors, K moins 1, K puissance K moins 1 fois K égale K puissance K. Ça égale 1 plus 1 sur K puissance K, qui est une approximation de E. Et une approximation d'en bas, et donc finalement on arrive à l'inégalité qu'on voulait. Mais tout ça marche parce que les CN ont été très bien choisis en avance. Et puis il y a l'appel à un Deus ex machina, c'est un peu comme dans un roman. Il y a une situation où les protagonistes ont un problème apparemment pas possible, insoluble, tout d'un coup quelque chose de très inattendu arrive et tout va bien. Et c'était pas très satisfaisant dans un roman, et c'est pas très satisfaisant dans une preuve d'un théorème non plus. Il y a une autre métaphore, c'est le lapin qui est sorti d'un chapeau. Et souvent on dit, oui, l'introduction des CN, c'est juste un lapin qu'on a sorti d'un chapeau, et on ne sait pas comment on est arrivé à penser de ce lapin. Donc une définition pas très précise, mais qui est une preuve motivée, est une preuve sans lapin. Mais pour ça, il faut décider ce qu'on veut dire par un lapin. Je vous ai donné un exemple. Et je ne vais pas vous donner une définition formale des lapins, mais je vais essayer de préciser un peu plus. Je vais présenter un deuxième exemple. C'est un exemple qu'on voit souvent dans un cours d'analyse réelle, un premier cours d'analyse réelle, que le produit, la limite d'un produit de suite égale le produit des limites des suites. Et je n'ai pas utilisé une preuve d'un vrai livre, d'un vrai texte mathématique, mais je crois que la preuve ici pourrait être une preuve qu'on trouverait dans un livre, un tel livre. Alors, on commence avec un petit lemme que la suite des BN est bornée. Et j'ai mis ça en rouge parce que je n'ai pas dit pourquoi ça va être utile. J'ai juste décidé arbitrairement de montrer que la suite des BN est bornée. Après, presque toute la preuve que... Je ne vais pas lire toute la preuve, mais presque toute la preuve du fait que la suite BN est bornée est assez transparente, assez claire à pourquoi on a fait les choix qu'on a fait. Sauf qu'il y a un petit détail qui est... On va utiliser la définition de convergence parce que c'est tout ce qu'on sait de BN. Et quand on utilise la définition de convergence, il faut choisir un epsilon. Et ici, on a choisi epsilon égale 1. Je n'ai pas dit pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai écrit le 1 là en rouge. Mais une fois que j'ai fait ce choix-là, le reste de la preuve que la suite BN est bornée est assez facile et bien connue. Et on arrive à une borne comme ça, que j'appelle B majuscule. Alors maintenant, après avoir prouvé ça, je commence à prouver ce que je veux vraiment prouver. Donc je choisis un epsilon, ou je prends un epsilon arbitraire, et je sais que je dois trouver un nombre P, tel que pour chaque N qui est plus grand que P, la différence entre ANBN et AB est au plus epsilon. Mais je dis rien de ça ici, parce que j'essaie de décrire une preuve qui n'est pas du tout motivée, avec beaucoup d'étapes qui ne sont pas motivées. Et donc, j'utilise la définition de convergence dans les deux hypothèses. Alors, je sais que la limite des AN est A, et la limite des BN est B. Donc, il existe un L tel que... Mais ici, encore, j'ai le droit de choisir un epsilon dans la définition de convergence des AN et des BN. Et je choisis cet epsilon pour les AN et cet epsilon pour les BN, sans dire pourquoi. J'ai le droit de le faire. Et donc, tout ce que j'écris là est vrai, mais je n'ai pas expliqué la raison pour ces deux choix-là. Et ici, il y a encore un choix. Si vous connaissez cette preuve, vous saurez bien sûr pourquoi j'ai fait ces choix-là, mais ici, je n'ai rien dit des raisons. Alors, je choisis P, le maximum de L et M. Et maintenant, il y a encore une étape pas du tout motivée, qui est de réécrire cette expression-là d'une façon plus compliquée, sans dire pourquoi. Mais une fois que je l'ai fait, le reste de la preuve est assez clair. J'utilise l'inégalité triangulaire et le fait que le produit des valeurs absolues et la valeur absolue des produits et tout ça. Ici, j'utilise la borne supérieure pour les BN et la borne supérieure pour les AN-A et la borne supérieure pour les BN-B. J'arrive à ça. Et grâce au choix de delta et eta, ou j'ai oublié, j'arrive à quelque chose qui est au plus epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Alors maintenant, on voit la raison pour les choix. mais on ne les a vus en avance. Et maintenant, la preuve est finie. C'est un exemple un peu plus simple que celui de Poya, parce que même après avoir vu, maintenant qu'on a vu la preuve, on a une bonne idée de la raison des choix qu'on a fait. Mais même après avoir vu l'exemple de Poya, il est un peu difficile de justifier le choix des CN. Juste, j'ai oublié de dire, il y a une petite raison, une partie de la raison pour choisir les CN, et que une idée un peu plus basique pour cette preuve, quand on a l'expression A1 jusqu'à AN puissance 1 sur N, on voit qu'on a la moyenne géométrique, et on est très tenté d'appliquer tout de suite l'inégalité arithmético-géométrique à cette expression-là. Et si on fait ça, on arrive à une expression qui n'est pas bornée par la somme à l'autre côté. Et donc la preuve ne marche pas. Et c'est ça qui provoque un peu l'idée d'utiliser l'inégalité arithmético-géométrique d'une façon un peu plus sophistiquée. Et on commence à avoir l'idée d'introduire des poids. Et si on ne sait pas comment choisir les poids, on peut juste les introduire sans faire le choix. Et on continue, on utilise l'inégalité arithmético-géométrique. Et après quelques étapes, on dit si CI était égal à cela, ça marcherait très bien. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à la preuve. Mais ici, je vais faire la même chose. Je vais maintenant réécrire cette preuve d'une façon beaucoup plus motivée. Et donc, je commence par écrire ce qu'on veut. On a un epsilon arbitraire, il faut trouver un P. C'est juste la définition de la convergence de A n Bn. Et ici, il y a nos hypothèses que j'ai développées. En utilisant les définitions de convergence. J'ai mis en bleu les aspects de la preuve qui nous permettent de motiver ce qui va suivre. Alors, ici, à la place de dire je vais choisir delta égale le minimum de epsilon divisé par blablabla, je vais choisir ces deux paramètres. Je peux les choisir comme je veux. Je ne sais pas comment les choisir, donc je vais attendre. Je vais les choisir plus tard. Et maintenant, je veux essayer de simplifier les conditions que delta et eta devront satisfaire, je veux dire. Je sais qu'à la fin de la preuve, j'aurai besoin que AN-A est inférieur à delta et BN-B est inférieur à eta doit impliquer que AN-BN-AB est inférieur à epsilon. Donc, comment le faire? Comment utiliser ces deux hypothèses-là pour prouver cette hypothèse-là? Je ne sais pas tout de suite, si je ne sais pas tout de suite, je peux essayer de faire quelque chose un peu plus facile. Je ne sais pas comment prouver cette inégalité d'un coup, mais au moins je peux créer ce terme-là. Je peux dire quelque chose sur le terme ANBN. Et comment est-ce que je peux faire ça? Une façon assez évidente est de multiplier cette inégalité là par la valeur absolue de Bn, parce que ça va me créer un terme AnBn. Alors j'ai une raison pour cette étape là, et la raison j'ai donné en bleu. Et maintenant, cette inégalité-là, je veux prouver cette inégalité-là, je peux utiliser l'inégalité triangulaire pour me dire que ça va suffire de montrer que alors, ANBN n'est pas loin de ABN, je veux montrer que ANBN n'est pas loin de AB, il suffit de montrer que ABN n'est pas loin de AB. Et alors ça, c'est ce que je dois montrer. Mais maintenant, j'ai un terme ABN moins AB que je peux créer d'un coup parce que je sais que BN moins B est inférieur à eta. Et donc je peux multiplier cette inégalité, je vais juste cette inégalité-là, par A, ou la valeur absolue de A, pour arriver à cette inégalité-là. Et si je veux montrer ça, et je sais ça, il suffit de montrer que eta fois la valeur absolue de A soit au plus cette expression-là, et donc ça se simplifie. Il suffit de montrer que delta Bn plus eta 1 est au plus epsilon. Et maintenant, voilà, c'est une partie un peu plus facile. Je peux choisir. Il suffit de montrer que delta Bn est au plus epsilon sur 2 et eta 1 est au plus epsilon sur 2. Alors, j'ai des raisons pour ce choix-là, ce choix d'alpha et de bêta. Et. Maintenant, j'ai choisi eta. Mais je ne peux pas choisir delta parce que j'ai besoin que delta Bn soit inférieur ou égal à epsilon sur 2 pour toute n, pas pour toute n plus grand que le p que je vais choisir. Et pour l'instant, alors je ne peux pas dire que delta va être epsilon sur 2 bn parce que ça me donnerait une expression qui dépend de n, qui n'est pas permis. Et c'est pour cette raison-là qu'on arrive à la conclusion que ce serait très utile si la suite bn soit bornée. Et l'idée d'essayer de montrer que la suite Bn est bornée arrive en tête, et c'est pas une idée, il y a une motivation, et voilà, on finit par le montrer. Ah, et pendant la démonstration, on voit qu'on a le droit de choisir un θ, et finalement on voit que on peut choisir n'importe quel paramètres pour θ, et donc le choix le plus simple est le 1 qui était en rouge avant, maintenant le 1 est en bleu, et après ça on finit la preuve d'une façon assez évidente. Une chose à remarquer est que la preuve motivée est beaucoup plus longue que la preuve qui n'est pas motivée. Et ça a une conséquence, une mauvaise conséquence, qui est dans la littérature mathématique, on voit très souvent les preuves non motivées, et beaucoup moins les preuves motivées. On voit souvent des preuves qui sont partiellement motivées, il y a une raison, il y a une tentation d'écrire une preuve courte et pas motivée à la place d'une preuve longue et motivée. Ici, il y a la motivation du choix de paix. Mais je ne veux pas en parler plus de ça. Il y a une autre personne, autant que je sache, qui a écrit sur le sujet des preuves motivées. C'est une Américaine qui s'appelle Rebecca Lee Morris. Les preuves motivées, ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes et comment les écrire. Et elle a introduit une précision que je trouve assez utile à l'histoire. C'est une distinction entre deux types de motivation. Alors, de temps en temps, quand il y a quelque chose qui n'est pas motivé, l'objection est « oui, je vois que ça marche, mais je n'ai aucune idée de comment vous avez pensé de cette idée. Vous êtes arrivé à cette idée. Mais il y a une autre objection possible qui est que je vois l'idée, je vois que ça marche, mais je ne vois pas comment cette idée est utile. Je ne vois pas comment ça aide. » Et donc, elle les appelait « role motivated ». Ça, c'est le deuxième type de motivation. Si on voit comment une étape est utile, on a une motivation en termes de rôle. Et si on voit l'origine de l'idée, on a une motivation en termes d'origine. Souvent, on voit tout de suite qu'une idée est utile, mais c'est toujours assez mystérieux comment l'auteur est arrivé à l'idée, mais le contraire est possible aussi. Alors, il y a deux notions un peu distinctes de motivation. Il y a quelque chose d'autre qu'elle souligne, qui est que il peut y avoir une étape d'une preuve qui, pour quelqu'un, a l'air pas du tout motivé, mais pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus expérimenté dans ce domaine de mathématiques, pour la deuxième personne, la motivation est beaucoup plus évidente. Et donc, la notion d'une preuve motivée doit être relative à un contexte, relative à tout l'expertise du lecteur de la preuve. Mais quand je parle des preuves motivées, j'ai en tête une lecteur typique. Mais alors, pourquoi je m'intéresse aux preuves motivées? C'est parce que je dirige un groupe. Pendant longtemps, j'ai été intéressé par les preuves automatiques des théorèmes, c'est-à-dire l'idée d'essayer d'apprendre aux ordinateurs de trouver des preuves. Et c'est un domaine de l'informatique qui a été très actif pendant quelques décennies, qui est récemment devenu beaucoup plus actif parce que grâce au grand modèle linguistique. Maintenant, il y a l'espoir qu'on peut utiliser peut-être une combinaison de logiciels traditionnels et grand modèle linguistique pour trouver des preuves à des théorèmes. Et Et moi, ce n'est pas exactement ce que mon groupe essaye de faire. Nous essayons d'écrire les programmes traditionnels, c'est-à-dire sans utiliser l'apprentissage profond et tout ça, juste les logiciels symboliques. Mais il est devenu clair que ce qu'on cherche n'est pas vraiment juste une preuve, mais c'est une preuve motivée. Parce que je vais essayer de vous convaincre que trouver une preuve qui n'est pas motivée est vraiment pas, presque pas possible. C'est pas tout à fait impossible, mais beaucoup plus difficile que de trouver une preuve motivée. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée de comprendre, vraiment comprendre ce qui est une preuve motivée. Alors, juste pour illustrer ça, je veux vous donner une conversation que j'ai eue hier avec GPT-4. Je lui ai posé une question, j'ai un peu triché, je lui ai demandé de me donner un exemple de quelque chose qui n'existe pas. Alors, j'ai voulu une matrice A, telle que A carré est nilpotente, mais A n'est pas nilpotente. Juste au cas où une matrice est nilpotente, si il y a une matrice A est nilpotente, s'il y a un K tel que A puissance K égale 0. Alors, si A carré est nilpotente, on a un K tel que A carré puissance K égale A puissance 2K égale 0, et donc A est nilpotente aussi. Mais GPT-4, l'entraînement de GPT-4, et il a vu beaucoup de littérature sur Internet et dans les livres mathématiques. Et le style, comme j'ai déjà dit, on utilise souvent le style considérer cet objet-là et maintenant on va vérifier que ça marche. Et le pauvre GPT-4 essaie de faire la même chose sans réfléchir en avance. Alors, GPT-4 nous donne un exemple et maintenant essaye de vérifier que A carré est nilpotente et A n'est pas nilpotente. Et on peut rire un peu, mais A carré égale ça, et maintenant il vérifie correctement que A carré est nilpotente. Et maintenant, la partie un peu plus douteuse dit que A n'est pas nilpotente car A au cube n'est pas la matrice nulle, mais malheureusement A cube est la matrice nulle. Et donc, heureusement, GPT-4 reconnaît qu'il a fait une erreur, mais malheureusement, il continue par une autre erreur parce que il dit qu'il suffit de montrer que A carré n'est pas la matrice nulle, mais il ne suffit pas. Mais finalement, il arrive à la conclusion que voilà, cet exemple marche. Et désolé pour la confusion initiale, mais pas désolé pour la confusion qui suit. Après un échange entre moi et GPT-4, on est arrivé j'ai dit, je ne vois pas pourquoi A n'est pas nilpotente. Il a dit, je suis désolé pour la confusion, etc. Et finalement, il a réessayé, mais cette fois avec un exemple plus sophistiqué. Mais c'est la même chose. On prend un exemple un peu plus compliqué, parce que pour GPT-4, c'est plus probable que voilà, le premier exemple ne marche pas, donc on écrit une matrice qui utilise des matrices bien connues, qui sont nilpotentes, blablabla, d'une façon. il vérifie que cette matrice n'est pas nipotente et le carré de, même si c'est pas vrai. Et donc, mais ce que je veux souligner est que je crois que la raison principale pour les difficultés de GPT-4 pour trouver la solution, pour voir qu'il n'y a pas de solution de ce problème très simple, et qu'il a toujours la tentation de dire voici la matrice, voici la vérification. Ici, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas du tout motivé, et aussi cette partie-là n'est pas du tout motivée, et ça, c'est le vrai problème pour GPT-4. Il essaye de trouver des preuves non motivées, et c'est vraiment difficile, même pour nous. Moi, quand je trouve la preuve d'une théorème, je ne fais pas. C'est un peu comme un enfant, si on a un problème de style, il y a une mère et une fille, la mère a 5 fois l'âge de la fille, et dans 15 ans, elle aura 2 fois l'âge de la fille, elle a quel âge a la fille? Si vous posez une question comme ça à un enfant, il ou elle, probablement on dirait... si la fille avait 8 ans, la mère aurait 40 ans, mais dans 15 ans, elle aurait 55 ans, et la fille aurait 13 ans, ça ne marche pas, peut-être que je vais... Et on essaye de deviner, finalement, on arrive à 5. C'est la méthode, mais bien sûr, un mathématicien un peu plus expérimenté va dire soit X, l'âge de la fille, et X plus 15 multiplié par 2 doit être 5X plus 15, et on arrive à X égale 5. Et donc on calcule la réponse, on ne devine pas, on ne devine pas tout de suite, on calcule. C'est un peu comme dans l'épreuve motivée que j'ai pas deviné les valeurs de eta et delta, je les ai calculées. J'ai simplifié le problème jusqu'au point que c'était évident quelle valeur je devais prendre. Alors, j'ai une hypothèse que je veux vous présenter, qui est que, en gros, il n'y a pas de preuve non motivé. Si vous voyez une preuve non motivée dans un livre, c'est la traduction d'une preuve plus longue mais plus motivée. C'est une traduction qui cache la motivation et rend la preuve plus difficile à comprendre. Mais peut-être plus courte en même temps. Et la raison est que ce que j'ai dit est beaucoup plus difficile de deviner correctement et après vérifier qu'il est de transformer le problème jusqu'au point qu'il est clair ce qu'il faut apprendre. Mais il faut qualifier cette hypothèse un peu parce que il y a des raison pour. Il est possible, en principe, il est possible d'avoir des preuves non motivées ou de découvrir des preuves non motivées. Une raison, il est possible de trouver des preuves par accident. Et je veux vous donner un exemple, pas un vrai exemple de l'histoire, mais un exemple qu'on peut. Imaginez, un exemple imaginaire. Qui est le suivant. Imaginez que vous venez d'apprendre l'analyse Fourier, les coefficients de Fourier des applications. Et vous êtes curieux de savoir ce qui sont les coefficients de Fourier de l'application et 1 entre 0 et pi, et 0 entre pi et 2 pi. Et si vous les calculez, bon, je ne vais pas faire la calculation, mais il n'est pas trop difficile. Et on peut réfléchir un peu, on peut dire qu'on sait que il y a l'identité de Parseval qui nous dit que cette expression-là égale la somme de tous les coefficients de Fourier carré. Alors, on peut dire cette intégrale égale 1 sur 2. Est-ce que j'ai fait une petite erreur? Non, ça va. Si on fait les calculations, on arrive à une identité remarquable qui est ça. Et il y a une petite astuce on peut utiliser pour ça, pour en déduire l'identité beaucoup plus connue. Pi au carré divisé par 6 égale la somme de avec 1 sur 4, 1 sur 16, etc. Mais même ça, je suis arrivé à ça juste par curiosité. J'ai voulu, l'identité de Parseval va me dire quoi si je l'applique à cette fonction assez simple. Mais si je cache tout ça et je pose le problème, montrer cette identité-là, c'est très difficile. Et si je vous donne la preuve n'est pas tout à fait mystérieuse, parce que je vous ai expliqué l'histoire d'une découverte un peu accidentale de l'identité. Mais si le but était de prouver cette identité, ça aurait été beaucoup plus difficile, parce que pourquoi aurais-je choisi cette application? Et donc, c'est une qualification. De temps en temps, on peut trouver une preuve par accident, et peut-être cette preuve n'est pas motivée comme preuve du résultat qui est prouvé, mais c'est motivé comme exploration, quelque chose comme ça. La deuxième objection, c'est quelque chose que je ne prends pas très au sérieux. Bien sûr qu'il arrive souvent qu'on a des idées et il est difficile de savoir d'où elles viennent, mais ça arrive toujours après beaucoup de réflexions. Et donc c'est juste parce que nos cerveaux sont, c'est un peu comme quand on rêve et on se lève et presque tout de suite on oublie les rêves. C'est un peu comme ça quand on a découvert une preuve. Souvent on oublie très, très rapidement comment on a trouvé les idées, mais il y avait des raisons. Oui, la troisième objection, souvent, par exemple, je peux souvent trouver une preuve pas du tout évidente parce que je connais une autre preuve d'un énoncé un peu similaire et que je peux utiliser comme modèle pour la preuve de l'énoncé que je suis en train de prouver. Et donc la motivation est externe, mais ça existe. Et finalement, il est possible d'utiliser un ordinateur pour essayer beaucoup d'idées qui ne marchent pas avant de trouver l'idée qui marche. Et donc finalement, quand on trouve l'idée qui marche, on pourrait dire que cette idée n'est pas forcément très bien motivé, mais l'idée d'utiliser l'ordinateur pour trouver l'idée est motivée. Alors c'est une petite complication à l'hypothèse. Mais rien ne change le fait que trouver des preuves non motivées est beaucoup plus difficile que trouver des preuves motivées. Je ne vais pas lire tout ça, mais je veux souligner... il y a 2 ans, Stanislas Polou était intervenant à ce séminaire. Il a parlé d'utiliser les grands modèles linguistiques pour trouver les preuves. Il a dit que un des grands problèmes est qu'on a un espace d'action infini. C'est-à-dire, de temps en temps, quand on est en train de d'écrire une preuve, on doit, par exemple, trouver un objet X qui a des propriétés P1 de X jusqu'à PK de X. Et la prochaine étape, il faut définir X. Et on a énormément de possibilités pour X, comme ici. Si j'avais cette identité à prouver, j'aurais énormément d'options. Je ne vais pas dire, considérant l'application ici. Ça, c'était une option entre des milliers d'options. Et donc, on a pour les. Bon, si vous avez suivi ce que j'étais en train de dire, moi, je crois que ce n'est pas un vrai problème parce que. Ce n'est pas comme ça qu'on trouve des preuves. Ce serait difficile si on devait. Ce serait un vrai problème si on devait trouver une preuve pas motivée, si on devait prouver la preuve dans la forme finale de l'article, par exemple, qui contient la preuve. Mais si on découvre la preuve d'une façon motivée, dans ce cas-là, le nombre d'options, le nombre de choses raisonnables à essayer est beaucoup plus limité. Mais pour expliquer pour essayer de défendre ma position, il faut essayer de comprendre quelle est la position. Qu'est-ce que je veux dire par un espace d'action fini. La première remarque est que ce n'est pas vraiment que l'espace d'action soit fini, parce que si on a un espace d'action, si on a un choix fini mais énorme, ça ne m'aide pas du tout. Ce qui compte est que l'espace d'action soit petit, que je n'ai pas beaucoup de choix. Mais quand même, ça ne suffit pas comme explication, parce que je peux faire quelque chose un peu bête. Je peux dire chaque suite d'énoncés mathématiques peut être codée en forme de suite 0 et 1. Et alors ma tâche est de trouver une suite de 0 et 1 qui peut être décodée et va être une preuve correcte du théorème. Et si je fais ça, je peux dire que j'ai un espace d'action de taille 2, parce que à chaque étape, je dois choisir soit 0, soit 1. J'ai 2 choix chaque fois. Mais il est clair que je n'ai pas un vrai choix, parce que en train de faire ce choix-là, je n'ai aucune idée si les choix précédents sont corrects ou utiles. Et donc, ce qui est vraiment important, et quand je suis en train de faire ces choix-là, je dois avoir un retour du problème. Il faut que le problème me dise « Ah oui, quelque chose très agréable vient d'arriver, et donc il est probable que cette étape-là soit utile, etc. » C'est un peu comme le jeu de 20 questions. Vous pensez à quelqu'un dans le monde entier et je dois deviner qui c'est, et j'ai le droit de poser des questions dont les réponses sont oui ou non. Et chaque fois, si vous me donnez un retour oui ou non, il n'est pas trop difficile d'arriver à, si j'ai 20 questions, d'arriver à la réponse, mais si je devais deviner tout de suite au début, ce serait beaucoup plus ce serait beaucoup moins probable que je la que ce serait correct. Et quand on cherche une preuve, c'est un peu comme un jeu de 20 questions. On pose des questions en forme de calcul. Si je fais ce petit calcul, ou si je fais cette déduction, que serait le résultat? Je fais le calcul, je trouve la réponse. Si la réponse a des propriétés qui me plaisent, je dis ah oui, c'est probablement ça va être utile, je continue sur ce chemin-là, sinon j'essaie quelque chose d'autre. Alors les problèmes nous donnent un retour quand on est en train de chercher des solutions. Et ça, c'est une stratégie pour trouver des preuves qui est bien supérieure à la stratégie de GPT-4, par exemple.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.